Hello, hello, je m'appelle Anthony, je suis journaliste pour Mademoiselle et bienvenue dans Matière Première, le podcast qui décrypte les étiquettes. Vous avez sûrement déjà vu sur plein d'emballages de produits skincare sans parabènes, mais est-ce que vous savez vraiment ce que c'est et pourquoi tant de personnes les fuient comme la peste? Les parabènes font partie de la vaste famille des conservateurs, dont certains membres sont plus controversés que d'autres, comme va nous l'expliquer le docteur en biologie des cellules souches, Cyril Laurent. Bonjour Cyril, merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ?
Bonjour Anthony, merci pour l'invitation. Donc en fait, je suis un créateur de contenu. J'ai une chaîne YouTube et un compte Instagram qui est Cyril Laurent. Et en fait, de par mon ancien métier, comme j'ai un doctorat en biologie, puis j'ai aussi une activité de recherche, j'analyse toujours les cosmétiques, toujours d'un point de vue très scientifique et surtout par rapport à ma formation, c'est-à-dire l'impact un peu biologique des cosmétiques. Et j'essaie d'expliquer aux personnes comment ça fonctionne, quel actif choisir, et puis remettre surtout du rationnel dans tout ça. Et je viens aussi de créer ma propre marque de cosmétiques qui va avec cette philosophie, c'est-à-dire que des formules très pointues, très scientifiques, et aussi avec beaucoup de choses qui sont plus d'ordre, je dirais pas philosophique, mais presque, c'est-à-dire que par exemple pour moi, le soin de la peau, c'est quelque chose qui est non genré, donc je sais que c'est aussi un sujet qui est important pour toi, mais pour moi, le soin de la peau, c'est vraiment pour tout le monde, et on les choisit surtout en fonction de ses problématiques et de ses types de peau, quoi. Mais ma marque s'appelle Cylla, qui est C-Y-L-A.
D'accord. Et justement, donc, tu as une approche assez scientifique de la beauté et du skincare. C'est pour ça que je t'invite aussi pour aujourd'hui parler des conservateurs. Pour commencer, qu'est-ce que c'est que cette famille d'ingrédients? À quoi est-ce qu'on les reconnaît? À quoi servent-ils dans une formule, même si c'est assez évident?
Alors effectivement, les conservateurs, en fait, c'est une catégorie assez vaste et ça va dépendre en fait du type de formulation. Ce que moi je dis souvent quand j'en parle, même sur mes réseaux, c'est qu'à partir du moment en fait où il y a de l'eau, il y a de la vie. Ça, c'est quelque chose qu'on sait. Donc dans toutes les formules déjà qui contiennent de l'eau, donc je pense par exemple à des sérums hydratants, à des crèmes hydratantes, il y a toujours une phase aqueuse. Donc à partir du moment où il y a de l'eau, il y a des bactéries par exemple qui vont pouvoir proliférer, qui vont pouvoir manger ce qu'il y a dans la formule. Il peut aussi y avoir des champignons, par exemple. Et ça, c'est vraiment important d'avoir une classe d'ingrédients à l'intérieur qui vont empêcher cela. Parce que sinon, en fait, le produit cosmétique va tout simplement devenir mauvais, très irritant pour la peau. Et on peut avoir des réactions. Et c'est souvent d'ailleurs ce qui se passe. Il y a certaines marques, en particulier les jeunes marques, où on peut avoir ce type de problème-là. C'est-à-dire que le système de conservation n'est pas optimal, en fait. Alors, il y a plusieurs familles, parce que du coup, comme je viens de le dire, on a des petites bactéries, en fait, qui peuvent proliférer. Donc, du coup, on va avoir des conservateurs contre ces bactéries-là. Je pense que les plus décriés, mais qui étaient les plus efficaces, ce sont les parabènes. Ce qui est d'ailleurs assez triste, parce que d'un point de vue purement scientifique, quand on regarde la littérature scientifique, c'est-à-dire ce qui a été vraiment fait par des chercheurs, en fait, on n'a actuellement pas de données pour montrer que ce soit dangereux. Il y a deux articles très connus. Il me semble qu'ils sont américains de souvenirs où ils auraient retrouvé des traces de parabènes, par exemple, dans des tumeurs mammaires. Alors le truc, c'est que quand on regarde cet article, quand on regarde le contrôle, c'est-à-dire c'est ce que les chercheurs font en fait pour vraiment valider la base de l'expérience, on s'aperçoit que dans le contrôle, quand il n'y a rien, il y a déjà plein de parabènes. Donc c'est-à-dire que la personne n'a déjà rien qu'en faisant ses expériences, tout était déjà foutu parce que tout était contaminé. Il n'y a pas aussi ce qu'on appelle de contrôle sain, c'est-à-dire une personne avec un tissu mammaire, par exemple, qui n'a pas de cancer, ni rien du tout. Enfin bref, il y a énormément de choses qui, d'un point de vue scientifique, ce type d'article-là, s'il n'y avait pas eu un lobbying derrière, en fait, n'aurait jamais pu être publié. Et au-delà de ça, par exemple, tu vois, pour les parabènes, c'est les conservateurs probablement les plus anciens qu'on a. Il me semble que les premiers qui ont été utilisés en cosmétique, c'est dans les années peut-être 30 ou 40. Donc ça fait vraiment très longtemps. Et on sait que c'est vraiment ceux où il y a le moins de problèmes, où il y a moins de problèmes, par exemple, d'allergie, le moins de problèmes de réaction. Parce qu'en fait, c'est vraiment ce qui ressort le plus souvent. Le souci qu'on a souvent avec les conservateurs, ce sont les réactions. Enfin, avec certains conservateurs, ce sont des réactions de sensibilisation cutanée ou même d'allergie. Et il y a aussi quelques autres papiers qui auraient montré que, par exemple, dans le cas des parabènes, qu'il y aurait une activité endocrinienne, des perturbateurs endocriniens. Parce que, en fait, quand on est, comme moi, je suis un ex-chercheur, en fait, je peux très bien lire les papiers. Et les modèles, en fait, qui sont utilisés sont complètement délirants. C'est-à-dire que la dose qu'on va mettre sur la peau dans les conditions de la réglementation, on n'aura jamais un effet perturbateur endocrinien, quoi. Sauf si on l'avale peut-être à la petite cuillère du matin au soir, chose que je ne recommande pas.
Ça peut pas être très bon.
Non, ce serait une très très mauvaise idée. Hein.
On a besoin de conservateurs dans la plupart des produits qui contiennent de l'eau, tu l'as dit. Mais par
exactement.
Exemple, dans les produits solides, genre un pain de savon ou un savon dur de Marseille, ou des produits en poudre, est-ce qu'il y a besoin de conservateurs?
Alors ça va dépendre, là encore, de la formule. Donc comme j'ai dit, en fait, il y a des conservateurs contre les bactéries, il y a des conservateurs aussi contre les champignons, donc souvent ils sont associés. Il y en a un par exemple qui est assez intéressant, qui s'appelle le 1,2-hexanédiol, qui est très souvent utilisé dans les produits coréens. On le voit de plus en plus aussi en France, qui en fait, ils appellent ça aussi parfois un booster pour booster le système de conservation. Ça, c'est contre les champignons, donc ils sont associés aux deux quant à effectivement de l'eau. Après, ce qui peut se passer, c'est que dans des formats solides, alors tu as parlé des savons, là, de souvenir, il me semble qu'il n'y a pas de conservateur, mais tu as par exemple pour tout ce qui est baume démaquillant. La majorité, en fait, tu n'as pas du tout d'eau dedans, mais tu as du gras. Ce qui se passe en fait avec le gras, c'est qu'effectivement, tu n'auras pas de prolifération bactérienne comme il n'y a pas d'eau, mais tu as le type de gras qui est à l'intérieur de lipides qui peut s'oxyder. C'est-à-dire ça peut réagir en fait avec l'oxygène qui est autour de nous. Ça, c'est quelque chose qu'on sait en cuisine, par exemple, avec les huiles deviennent rances, par exemple, le beurre peut devenir rance. Et donc, souvent, en fait, la conservation va se faire avec de la vitamine E. Alors, soit de la vitamine E, ce qui est l'alpha-tocophérol, très souvent, ce sont des dérivés de vitamine E, qui, d'un point de vue biologique, pour moi, sont moins intéressants, parce que je suis pas sûr que la peau puisse s'en servir. Mais d'un point de vue chimique, ils vont, en fait, empêcher l'oxydation. C'est pour ça qu'il y a certaines huiles qu'on peut garder très longtemps, parce qu'elles sont très riches, en fait, en vitamine E. Ça vient de là, et ça va permettre de conserver, alors soit la phase grasse, par exemple, d'une émulsion, d'une crème, ça c'est du gras et de l'eau, soit par exemple d'un baume démaquillant.
D'accord, donc dans une liste Inti, par exemple, on peut voir tocophérol en fin de liste, et c'est de la vitamine E, généralement.
Exactement, alors si c'est du tocophérol, ça peut être de la vitamine E. Alors si je rentre vraiment dans le détail, il y a plusieurs formes de vitamine E. Celle qui est biologiquement active, ça s'appelle l'alpha-tocophérol. C'est vraiment ce que nous, nos cellules, utilisent en permanence. C'est un ingrédient que moi, j'appelle vraiment naturel, parce que c'est quelque chose qui biologiquement existe, que nos cellules se servent. Souvent, en fait, ce sont des mélanges, parce que ça coûte moins cher, par exemple. Tout simplement, et parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les cosmétiques sont faits avant tout par des chimistes. Donc eux, ce qui vont leur intéresser, c'est par exemple la stabilité de la formule qui est extrêmement importante. Hein. Sans les chimistes, on n'a aucun cosmétique, hein. Ça ne pousse pas sur des plantes, je le dis souvent. Il faut aussi évidemment qu'ils se conservent dans le temps. C'est aussi tout simplement pour la sécurité, hein. C'est un produit qui devient mauvais, qui pourrit littéralement, ou les lipides qui vraiment s'ensemblent, ça peut être très très irritant parce que ça devient complètement autre chose, quoi.
Si je résume, les conservateurs dans une formule, ils sont là pour empêcher qu'elle ne tourne ou qu'elle ne pourrisse ou qu'elle ne rancisse, pour assurer la stabilité de la formule.
Exactement.
Tu as lâché le mot tout à l'heure, naturel. D'où est-ce que proviennent les conservateurs? Est-ce qu'il y a plusieurs familles? Est-ce qu'il y en a, ils sont forcément de synthèse? Est-ce qu'ils peuvent être d'origine naturelle? Comment est-ce qu'on produit des conservateurs?
Alors effectivement, il y a plusieurs origines. Alors moi, j'aime pas tellement le mot origine naturelle. Hein, pour celles et ceux qui suivent mes contenus, ils le savent, c'est même absolument pas un critère. Tout dépend de la définition qu'on a de terme de naturalité. Très souvent, quand même, en cosmétique, c'est-à-dire que ce sont des ingrédients qui sont sourcés à partir du végétal. C'est-à-dire, en fait, que c'est de la chimie végétale, finalement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une plante, c'est de la biochimie. J'en ai fait beaucoup pendant mes études en biologie, mais c'est de la chimie, en réalité. Hein. C'est exactement la même chose que quand on fait de la synthèse, quand c'est quelque chose qui est créé par l'humain. Donc, ce n'est pas un critère. Après, on a effectivement certains ingrédients qui sont vraiment d'origine de synthèse, c'est-à-dire que ce sont des réactions chimiques réalisées par l'homme. Et il y en a d'autres, en fait, qui sont purifiés à partir, par exemple, de plantes. Il y en a un, par exemple, qui a été développé par les Coréens, parce que ça m'avait amusé de chercher. Ça a été fait à partir du kimchi. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est une des bases de l'alimentation coréenne. Moi, j'aime beaucoup cette nourriture-là. Et en fait, il y a... Alors, il me semble que c'est une bactérie ou une levure. Ça, j'ai un petit peu oublié, mais c'est dérivé de là. Effectivement, cet ingrédient-là est, on va dire, sourcé naturellement. Mais il faut sauter cette idée de la tête que parce que ça vient forcément des plantes, que c'est aussi plus écologique. Parce qu'il y a tout simplement certaines plantes... bon, là, c'est pas le sujet des conservateurs, mais par exemple, il y a un actif qui est assez intéressant en cosmétique qui s'appelle le bakuchiol, ou bakuchiol, je sais jamais comment on le dit exactement, qui est sourcé, en fait, à partir d'une plante. Sauf que cultiver en fait cette plante demande des ressources en eau et énergétiques qui sont en fait très élevées. Donc au final, en fait, on fait plus de mal à la planète que si on le faisait de synthèse en fait. Et parfois, on n'a pas le choix aussi. Il y a tout simplement le fait qu'il y a certains ingrédients qu'il vaut mieux sourcer naturellement parce qu'on n'a pas encore de voie de synthèse faite par l'humain. Mais c'est pas parce qu'un ingrédient est synthétique ou parce qu'un ingrédient est sourcé du végétal qu'il est forcément mieux ou moins bien.
Ok, mais la famille des parabènes, par exemple, d'où est-ce que ça vient ?
Alors ça, je sais plus historiquement, mais ça fait très très longtemps et il me semble même que tu les retrouves dans certains fruits. Ça, je pourrais peut-être me tromper, mais je pense que la fraise, il me semble, par exemple, en contient. Souvent, en fait, ce qui se passe, même en chimie, t'as le cas, par exemple, avec les antibiotiques, comme avec la pénicilline, ça a été découvert naturellement. Alors, il me semble que c'était à partir du citron, quelque chose comme ça. Mais il y a une moisissure, en fait, qu'on retrouve aussi dans le fromage, dans tous les bleus, en fait. Cette moisissure assez verte. Et à l'origine, en fait, c'est un antibiotique qui est créé, en fait, par un champignon, qu'ensuite, on a réussi à créer en synthèse et qu'on a modifié, en fait.
Ok, petite pause pour préciser ce qu'explique Cyril ici. Un parabène, c'est donc un conservateur, antimicrobien et antifongique, essentiellement utilisé dans les cosmétiques et de façon plus marginale dans certains médicaments et même certains aliments comme additifs alimentaires. Pour la nourriture, les parabènes sont désignés par E214 jusqu'à E219. Pour les cosmétiques, on les reconnaît facilement dans la liste INCI puisqu'il y a parabène dans le nom, comme le propylparabène, le butylparabène, le méthylparabène ou encore l'éthylparabène. Ce qui est intéressant avec les parabènes, c'est qu'ils sont efficaces même à très faible dose. Et quand Cyril dit qu'on trouve naturellement des parabènes dans certains végétaux, eh bien c'est vrai. C'est le cas dans les mûres, l'orge, les fraises, le cassis, la vanille, la carotte ou encore les oignons. Les industriels de l'alimentaire ne se gênent pas pour en mettre aussi dans beaucoup de produits transformés comme les sauces, les conserves, les jus de fruits ou encore les crèmes glacées. Bref, les parabènes sont partout, ou presque, car on sait les utiliser depuis longtemps, qu'ils sont très efficaces comme conservateurs. Mais alors, pourquoi les parabènes ont si mauvaise réputation dans les cosmétiques aujourd'hui en France ? Certaines études ont tenté de montrer un lien entre leur utilisation et le développement de certains cancers. Et d'autres études scientifiques ont tenté de corroborer tout ça. Il en résulte que, dans l'état actuel des connaissances, on ne peut pas affirmer un lien de causalité entre l'exposition aux parabènes et le développement de certains cancers. En revanche, d'autres études encore tentent de prouver un lien entre forte exposition aux parabènes chez une femme enceinte et le développement de surpoids pour son enfant. Mais ces résultats doivent encore être confirmés par d'autres études épidémiologiques. En effet, un bébé, dans le ventre de sa mère, est en plein développement, y compris au niveau de son système hormonal, qui peut donc être beaucoup plus facilement perturbé que chez l'adulte. Bref, à moins d'être une femme enceinte, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Pourtant, les marques ont quand même cherché à remplacer les parabènes. Alors, quelles sont les alternatives pour garantir la bonne conservation des produits ? Et a-t-on vraiment du recul dessus ?
Donc, pour les conservateurs, par exemple, les parabènes, c'est potentiellement la même chose en fait à l'origine, et ensuite ils ont été modifiés. Les parabènes, en fait, c'est juste le nom de la famille. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que le greenwashing qu'on a eu avec les parabènes, je pense que maintenant, d'un point de vue marketing pour une marque, créer encore des cosmétiques avec des parabènes en ce moment, c'est quand même un peu compliqué. Mais par exemple, t'as beaucoup de produits japonais, dont certaines marques que moi j'aime beaucoup, qui continuent à formuler avec les parabènes. Parce que l'avantage des parabènes aussi, c'est qu'il en faut une très très petite dose.
C'est limité à combien les parabènes aujourd'hui en France ?
Alors ça dépend du type de parabènes, mais très souvent c'est en dessous de 1%.
Et comment est-ce qu'on les reconnaît dans une liste INCI, la famille des parabènes ?
Alors, tu as le mot parabène, tu peux avoir butylparabène, par exemple, propylparabène, mais tu as vraiment le mot parabène. À ma connaissance, sur le marché français, et même sur le marché américain, on ne les retrouve plus du tout maintenant. Je pense que le plus connu, c'est par exemple le phénoxyéthanol, que tu retrouves le plus souvent, en fait, actuellement dans les cosmétiques.
Eh bien, parlons-en, le phénoxyéthanol, c'est quoi ? Ça vient d'où ? Comment est-ce que c'est produit ?
Alors, ça vient d'où et comment c'est produit, ça, je peux pas te dire, parce que ça, je ne sais pas, mais c'est une assez bonne alternative à d'autres conservateurs. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le switch de « on ne formule plus avec les parabènes », il a fallu trouver des alternatives, ce qui a été en fait un gros problème. Parce que, comme je viens de te l'expliquer, les parabènes, ils sont très très puissants, ils ont une forte activité antibactérienne, ce qui est très très bien, mais par contre, ils étaient très peu allergisants. Donc en fait, ils avaient un très très bon profil. Entre le profil, on conserve très bien, mais en même temps, il y a le moins de personnes qui vont pouvoir réagir et aussi parce que ça fait très longtemps tout simplement qu'on les utilisait. Donc il a fallu trouver des alternatives, et le phénoxyéthanol en fait a un assez bon profil parce qu'il y a très très peu de cas d'allergie, il va très peu sensibiliser aussi la peau, et il est limité à 1% maximum dans les cosmétiques en fait. Hein. Alors il faut quand même l'associer à d'autres conservateurs, je crois que c'est des antifongiques, donc contre en fait finalement les champignons. Donc il est souvent associé, ce n'est pas le seul que tu vas retrouver en formule. Alors je ne sais pas pourquoi il a été beaucoup décrié, enfin si je pense savoir pourquoi, dans certaines études en fait on peut utiliser le phénoxyéthanol comme irritant cutané, mais à des fortes concentrations. Ce que je dis très très souvent, et c'est un peu le problème de tout le greenwashing finalement et cette super simplification de tout, c'est que tout peut être potentiellement un poison. Moi ce que je dis tout simplement, bah, l'eau par exemple, l'eau peut être un poison. Si on se met à boire de l'eau du matin au soir, ça va tout simplement nous tuer, on va se retrouver en insuffisance rénale. Donc c'est vraiment important de toujours avoir cette notion en tête, c'est que tout peut être toxique en fait au final. C'est la même chose avec le phénoxyéthanol, quand il est très fortement concentré, ça peut être un irritant cutané. Quand il est correctement utilisé aux concentrations correctes, c'est-à-dire par exemple 1% maximum, il n'y a pas de souci, ça ne va pas être irritant pour la peau.
D'accord. Dans l'état actuel des choses, c'est impossible qu'on trouve des produits cosmétiques avec du phénoxyéthanol au-dessus de 1%. Et même 1%, c'est un seuil de sécurité qui est très prudent, j'imagine. Peut-être qu'il peut devenir nocif à un pourcentage encore plus important, mais ça, il n'y a pas besoin de s'en soucier, quoi. On est en sécurité avec nos cosmétiques qui contiennent du phénoxyéthanol.
Oui, exactement. Alors, nous, en plus, on est européens, donc on a beaucoup de chance, parce que la réglementation européenne est extrêmement stricte. Et souvent, sur les ingrédients les plus décriés, donc je pense par exemple typiquement aux filtres solaires ou aux conservateurs, comme en fait, ce sont des ingrédients qui sont très importants, qui tombent dans certaines réglementations. Donc, il y a la réglementation solaire, il y a aussi la réglementation des conservateurs. Et ça, ils vont être énormément utilisés parce que c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Donc du coup, il y a des dossiers énormes de toxicologie sur ces ingrédients, en particulier par exemple pour le phénoxyéthanol, qui ça fait quand même pas mal de temps, j'ai pas regardé depuis combien de temps il est utilisé, mais c'est absolument pas un nouvel ingrédient. Et la façon dont le pourcentage en fait maximal est fait, c'est en fonction des articles scientifiques pour montrer à quel degré en fait ils sont toxiques, donc ou sensibilisants par exemple. Donc là, on abaisse ce niveau-là, et aussi avec l'effet, parce que souvent on dit oui, mais on prend pas en compte l'effet cocktail, c'est faux. L'effet cocktail a aussi été pris en compte, et en fait, c'est comme ça que la concentration est déterminée.
D'accord, donc on prend le pire scénario possible et on se dit on dépassera pas ça, et d'accord, et on applique le principe de précaution quoi quelque part.
Exactement.
Comment est-ce qu'on reconnaît le phénoxyéthanol dans une skin tea ?
Eh bien, on le reconnaît, il s'appelle phénoxyéthanol, donc c'est très très simple.
Comme c'est pratique, effectivement.
Les dessous de l'index. Bonjour ou bonsoir. Vous vous apprêtez à écouter Les dessous de l'index, une chronique destinée à celles et ceux qui prêtent attention à la formulation des produits cosmétiques et de leurs impacts sur notre planète. Ce sixième épisode sera dédié à la composition des produits. Vous savez, la liste que l'on trouve imprimée en tout petit sur les emballages. Elle s'appelle la liste INCI. Ça veut dire en anglais « International Nomenclature of Cosmetic Ingredients ». Si vous avez eu le bonheur d'écouter ma première chronique, alors vous savez déjà ce que je pense des listes INCI longues comme le bras. Et c'est pourquoi je me réjouis que le Green Impact Index prenne en compte le nombre d'ingrédients contenus dans la formule. Mais d'abord, le Green Impact Index, de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est un indicateur inventé par le groupe Pierre Fabre pour évaluer l'impact sur la planète et la société des produits cosmétiques. Le score de chaque produit est d'abord obtenu à partir de 20 critères environnementaux et sociaux, puis résumé en une seule lettre, A, B, C ou D. Et pour en revenir à ma liste INCI, l'un de ces 20 critères, c'est justement le nombre d'ingrédients. Le meilleur exemple d'une formule courte, c'est la cosmétique stérile, inventée par Pierre Fabre pour ses marques Aven, Aderma et Ducré. La cosmétique stérile s'adresse à vous si vous avez la peau sensible ou fragile. Les produits formulés et fabriqués en cosmétique stérile ne contiennent aucun conservateur. Les conservateurs peuvent être utiles, mais ils peuvent aussi causer des allergies, des démangeaisons ou des inflammations cutanées sur les peaux sensibles ou fragiles. Idem pour les parfums qui sont exclus de la cosmétique stérile. Un exemple de produit que vous connaissez peut-être si vous avez la peau sensible, intolérante ou allergique, c'est la crème apaisante Tolérance Contrôle d'Avène. Cette crème ne contient que 7 ingrédients. Un exploit quand on sait qu'en moyenne, un cosmétique en contient 23. J'espère vous en avoir appris davantage sur la formulation des produits cosmétiques. J'espère aussi que vous aurez envie d'en savoir plus sur le Green Impact Index. Vous pouvez le retrouver sur les fiches produits des sites web d'Eau Thermale Avène, de Chlorane, de Ducré ou encore d'Aderma. La méthodologie de l'index est validée par AFNOR Certification, un organisme chargé de vérifier que les entreprises ne nous racontent pas de blabla. Voilà qui devrait permettre à chacun et chacune de choisir ses produits en toute connaissance de cause, en accord avec ses convictions et de consommer de manière plus responsable. Ma chronique est terminée. Je vous laisse reprendre le cours de votre vie plus instruit. À très bientôt. Les dessous de l'index.
J'imagine que tu ne portes pas la clean beauty dans ton cœur, en tout cas l'expression clean beauty, qui chasse ce cœur de conservateur aussi, enfin en tout cas qu'il prétend le faire, mais souvent on en retrouve du phénoxyéthanol dans les formulations. Pourquoi est-ce que le phénoxyéthanol est controversé dans une certaine mesure ?
Je pense en fait, il y a un mot en anglais qui s'appelle le cherry picking, où en fait c'est un petit peu cette idée de sortir certains articles de la littérature scientifique sans vraiment les comprendre et vraiment les lire, c'est-à-dire savoir ce qu'il y a vraiment derrière, et ils le détournent. Et comme je l'ai dit, en fait, le phénoxyéthanol à très forte concentration, comme beaucoup d'autres ingrédients, la glycérine par exemple c'est le cas, peuvent être sensibilisants en fait sur la peau. Sauf que souvent, ce qu'ils ne comprennent pas dans la clean beauty, c'est qu'un ingrédient à très forte concentration ou dans certains modèles par exemple, où il va être ingéré, ça n'a rien à voir à l'appliquer sur la peau à très faible concentration en fait. Et c'est ça en fait, il y a souvent un déplacement du débat, il y a une simplification en fait de tout qui en rend même les choses complètement fausses. Toujours, je prends toujours mon image même avec l'eau, si on restait toute la journée dans un bain d'eau par exemple, ça nous tuerait. Alors que l'eau est nécessaire à la vie. Mais c'est pas quelque chose qui est bon pour la peau d'être en permanence dans l'eau, quoi.
Et on pourrait aussi ajouter peut-être qu'un produit cosmétique sans conservateur pourrait être beaucoup plus dangereux qu'un produit qui contient un pourcentage infinitésimal de parabènes ou de phénoxyéthanol.
Exactement. Exactement. Cette idée, y avait un moment, j'ai l'impression quand même que cette tendance diminue, mais un petit peu cette idée de faire des cosmétiques par exemple soi-même, il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu énormément de surprises justement. Il y avait que la cosmétique bio, par exemple, qui est en fait un label qui n'a aucun rapport avec même la biologie de la peau. C'est complètement détaché de cela, des sensibilisations, etc. Il y a eu, il y a quelques années, énormément de problèmes avec ça, justement. Parce que les produits étaient mal... les conservateurs utilisés n'étaient pas suffisants. Et donc, du coup, il y avait beaucoup de risques d'allergie. Ou tout simplement, toujours, dans ces marques-là, du coup, qui évitent certains ingrédients alors qu'il n'y a pas de corpus scientifique pour vraiment dire que, oui, effectivement, c'est vraiment mauvais pour la peau, aux concentrations réglementaires, vont en utiliser d'autres. Alors, je pense, par exemple, à l'éthanol, qu'on retrouve très souvent sous forme d'alcool dénat. C'est ce qu'on va retrouver dans la liste Inky, à forte concentration. Et ça peut être sensibilisant. En particulier chez les personnes qui peuvent peut-être utiliser déjà certains actifs cosmétiques. Je pense à des actifs exfoliants, à des rétinoïdes, quand la barrière cutanée va être abîmée ou une peau très très sèche par exemple, l'alcool en fait va passer au travers de la barrière cutanée et va irriter. Et pour que l'alcool soit utilisé en termes de conservateur, il en faut beaucoup. Je pense qu'il faut qu'on soit aux alentours de 3 à 5%, donc c'est quand même pas mal. Et ça peut être potentiellement irritant.
Et l'alcool comme conservateur, on va plutôt le trouver dans quoi ? Quel type de famille de produits ? Les lotions peut-être ?
On le trouve essentiellement, alors l'alcool, comme c'est surtout soluble dans l'eau, on peut aussi le solubiliser dans le gras, mais c'est surtout dans tout ce qui est émulsion. Donc ça peut être effectivement dans des crèmes hydratantes, ça peut être dans des lotions hydratantes. Alors on en trouve moins maintenant, mais certains toniques dits astringents. C'est en plus l'alcool a un effet qui va resserrer les pores, enfin plutôt les rendre moins apparents. Ça c'est pas un muscle. Hein. Et en plus c'est uniquement temporaire, moi c'est typiquement le genre de produit où, que je vais pas recommander en fait, hein. Pour moi c'est vraiment important d'éviter un maximum des ingrédients qui sont potentiellement irritants, et je fais exprès même de dire potentiellement irritants parce que la réglementation européenne nous protège énormément, et même de façon générale de toute façon, quelle que soit la marque, même si ce sont des marques que j'aime pas tellement, il y a personne qui dans l'industrie cosmétique a vraiment intérêt à mettre un produit toxique sur le marché. Enfin, je veux dire, même d'un point de vue purement business, c'est la mort, quoi, littéralement.
Et justement, en parlant de mise sur le marché, Je m'interroge aussi sur les fabricants de produits, les marques. L'allégation sans parabène ou bien sans conservateur va être amenée à disparaître, j'imagine, puisqu'il y a des lois qui sont en train de passer à ce sujet-là, enfin qui sont passées d'ailleurs. Mais à ton avis, est-ce que c'était une controverse légitime ou disproportionnée autour des conservateurs ?
Alors effectivement, oui, c'est même du n'importe quoi. Et moi, ce que je n'aime pas dans le etc., c'est que surtout que tu as, là encore, un déplacement du débat. C'est-à-dire que les personnes vont se dire, tiens, si mon produit cosmétique est formulé sans ci, sans ça, etc., donc du coup, ce sera forcément mieux ou un bon produit. On ne choisit pas un produit cosmétique en fonction de ce qu'il n'a pas. On le choisit en fonction de son type de peau. Est-ce que j'ai plutôt la peau sèche ? Est-ce que j'ai plutôt la peau grasse ? Est-ce que j'ai une peau normale ? Une peau mixte ? En fonction de ses problématiques. C'est comme ça qu'on choisit un produit cosmétique. Et c'est pas parce qu'un produit est formulé, par exemple, sans parabènes, sans alcool, qu'il va être forcément mieux qu'un autre. En particulier si on utilise un produit qui n'est pas adapté à son type de peau. Donc il y a complètement, en fait, finalement, un déplacement du départ. Et il y a aussi une peur irrationnelle. Et ce qui est en plus, ce que je trouve qui est extrêmement dommageable, et ce qui a même tendance, moi, à m'énerver, c'est que les personnes, en fait, ne vont pas être orientées dans leur choix des cosmétiques, finalement. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, bon, c'est bon, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, donc je ne vais pas prendre quelque chose d'anxiogène, finalement, quelque chose qui est potentiellement dangereux alors que c'est faux. Ils vont parfois choisir des produits qui vont pourtant contenir des ingrédients irritants qui sont très connus. Donc, typiquement, il y a certains parfums. C'est très connu que le parfum, c'est pour ça que moi, l'essentiel des produits cosmétiques que je recommande, ils sont sans parfum. Bon, il y a aussi une autre partie parce qu'on n'a pas forcément les mêmes goûts. Il y a aussi certains conservateurs qui sont très très connus. Il y a toute une famille, alors ils ont vraiment des noms qui se dévissent, qu'on retrouve presque plus maintenant en Europe. Mais par exemple, ça s'appelle le méthylchloroisothiazolinone. Donc c'est vraiment un nom qui se dévisse. En général, on les reconnaît parce qu'à la fin, il y a le mot zolinone. C'est comme ça qu'on les retrouve. Ceux-là, ils sont très très connus pour être allergisants, jusqu'à tel point que maintenant l'Europe les a pratiquement complètement bannis. Je crois qu'on peut encore les retrouver à l'état de trace dans certains conservateurs, c'est-à-dire en fait que dans certains ingrédients. C'est-à-dire en fait quand une marque va dire je vais formuler X ou Y produit avec tel ingrédient, parfois en fait ce sont des mélanges d'ingrédients et ces ingrédients contiennent un petit conservateur. Ça peut être le cas de celui-ci qui va vraiment se retrouver à l'état de trace. Donc légalement ils sont obligés de l'écrire dans la listing key, mais il est très faiblement concentré. Maintenant on le retrouve presque plus, mais par exemple juste après tout le greenwashing qu'il y a eu autour des parabènes, on le retrouvait de plus en plus et les dermatologues se retrouvaient avec de plus en plus de patients qui avaient des réactions allergiques en fait. Hein. Il y en a aussi un autre qui s'appelle le benzyl alcool qui est très souvent sensibilisant. C'est-à-dire il peut donner des réactions d'allergie mais aussi de sensibilité cutanée. Et ça, très souvent, ça ne va pas être forcément mis en avant par tout le greenwashing, etc. Alors que ça, ce sont en fait des choses avérées. Alors ça ne veut pas dire que la majorité des gens vont être allergiques, mais c'est vrai que quand on est une marque, et pour moi c'est un petit peu important de quand on va formuler des produits, c'est le cas par exemple, c'est ce que je fais moi avec ma marque, j'essaie toujours de formuler un maximum avec des ingrédients qu'on appelle hypoallergéniques, c'est-à-dire qu'ils sont connus pour donner le moins de réactions allergiques. Ça ne veut pas dire que dans l'absolu, on ne peut pas avoir quelqu'un qui va y réagir. Mais en tout cas, on est dans cette démarche d'être dans un maximum, dans cette idée en fait qu'on a des formules le moins allergisantes possible, le moins irritantes possible, quoi.
Haute tolérance.
Exactement.
Est-ce qu'il y a des conservateurs qui sont préférables à d'autres en fonction de son type de peau ou de la famille de produits, par exemple ? Est-ce qu'il y a un conservateur qui est intéressant à avoir dans des formules qu'on rince et d'autres conservateurs plus intéressants pour des produits qu'on laisse sur la peau, etc.
Alors c'est un peu compliqué d'y répondre directement parce que c'est très formule dépendante. C'est-à-dire par exemple une formule qui a une grosse phase grasse avec beaucoup d'huile et beaucoup moins d'eau, par exemple, on va pas pouvoir utiliser le même système de conservation forcément qu'un autre type de formule. Typiquement, il y a deux conservateurs que moi j'aime bien, c'est l'association du 1,2-hexanédiol qui a une activité antifongique avec l'éthylhexylglycérine qui lui va être surtout un antibactérien. Mais par exemple, dans des formules qui sont essentiellement aqueuses, ça va moins bien fonctionner, tout simplement parce que l'éthylhexylglycérine, elle a besoin d'un peu de gras pour être solubilisée. Donc en fait, ça dépend énormément. Donc si, dans l'absolu, on n'a pas de réaction allergique, il n'y a pas vraiment de raison d'en éviter plus un que d'autres. Et heureusement, en particulier les grandes marques, font très très attention à ça. Après, c'est vrai que moi, par exemple, le benzyl alcool, qu'on retrouve quand même un peu trop souvent, moi, j'aimerais bien qu'on s'en sert un peu moins parce qu'il est potentiellement sensibilisant. C'est une des raisons, mais la majorité des personnes ne vont pas réagir.
D'accord. Bah, tu fais bien de le dire, effectivement, c'est très clair. Et concrètement, qu'est-ce qu'on doit retenir autour des conservateurs selon toi ?
Bah, d'abord qu'il ne faut pas avoir peur des conservateurs, c'est vraiment une classe d'ingrédients qui est absolument nécessaire, que c'est là avant tout pour nous protéger et aussi pour assurer vraiment la sécurité des cosmétiques. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est juste d'en éviter certains qui sont potentiellement sensibilisants. Quand les personnes ont une réaction très violente en fait aux cosmétiques, c'est très très souvent une réaction allergique. Ça peut être dû à des conservateurs. Je viens d'en citer un qui est le benzylalcool. J'en ai cité deux autres un petit peu avant, mais ils ont pratiquement disparu du marché européen, donc il n'y a pas trop de raison de s'inquiéter dessus. Et ensuite, bon, c'est pas vraiment l'enjeu de ce podcast-là, mais ce serait par exemple tout ce qui est parfum et dérivés d'huile essentielle. C'est-à-dire que toutes les molécules en fait, qui ajoutent du parfum sont potentiellement sensibilisantes et allergisantes. Et c'est surtout ça, je pense, qu'il faut retenir. Alors, il ne faut pas en avoir peur, il faut juste avoir conscience en fait, que ça peut être potentiellement sensibilisant et allergisant.
Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est le conditionnement du produit en fonction du packaging. Est-ce qu'un produit peut se dispenser de conservateurs ? Par exemple, un flacon airless, ce genre de choses ?
Effectivement, c'est une excellente question. Alors, dans un flacon airless, en fait, ça veut dire que la façon dont ça a été produit, on fait en sorte qu'il y a le moins d'air qui rentre dedans et surtout que dans l'utilisation du produit, tu n'auras pas d'air qui va rentrer dedans.
Pour ne pas oxyder la formule.
Alors, pour ne pas oxyder, éviter de la contaminer aussi un maximum. C'est-à-dire, on ne va pas mettre ses doigts dedans. Donc, effectivement, on peut se permettre d'avoir un système de conservation qui soit un peu plus light. Ceci étant dit, ce n'est pas stérile. Et il y a très, très peu de cosmétiques qui sont faits dans des conditions stériles parce qu'en fait, ça demande toute une infrastructure, même au niveau des usines très particulières. Donc, ça demande, par exemple, des ingrédients qui soient stériles. Ça demande de tout manipuler dans des conditions stériles, souvent dans des conditions avides. C'est-à-dire, il n'y a même pas d'air. Donc là, effectivement, on pourrait formuler ça sans conservateur. Le prix des cosmétiques exploserait aussi. Donc, ce ne serait pas vraiment très, très sympa pour les personnes. Et puis bon, comme je l'ai dit, hein, la classe des conservateurs, ça a été tellement étudié, archi-étudié, il n'y a pas vraiment de raison de s'en inquiéter. Mais un flacon airless, c'est sûr, permet d'avoir moins de conservateurs que tout simplement une crème pain en pot où on va mettre son doigt.
Et dernière chose, c'est quoi la question qu'on ne se pose pas assez autour des conservateurs selon toi ?
Je ne sais pas si c'est une question... c'est plus en fait un déplacement du débat, c'est-à-dire qu'on s'inquiète beaucoup trop à ce sujet-là, au lieu de s'inquiéter des bonnes choses. C'est-à-dire, est-ce que finalement mon produit n'est pas irritant ? Pour moi, ça c'est le plus important. Est-ce qu'il est vraiment formulé plus dans des conditions hypoallergéniques ? Et surtout, est-ce que ce produit me convient ? Est-ce qu'il est vraiment pour mon type de peau ? Est-ce que vraiment cet actif, c'est un actif dont j'ai vraiment besoin ? Et le dernier point, qui est aussi quelque chose qui est très important pour moi, c'est est-ce qu'on s'en sert correctement ? C'est-à-dire peut-être que cet actif est très très bien pour ce type de peau-là et cette problématique-là, mais est-ce que la personne sait vraiment s'en servir ? Typiquement avec un actif exfoliant, est-ce que cet actif aurait mieux pas s'en servir deux fois par semaine plutôt que de s'en tartiner tous les jours et du coup de sensibiliser la peau ? Et ça je pense que c'est vraiment l'enjeu du débat quoi. Qui va pas forcément dans quelque chose de marketing, parce que évidemment que les marques ont plutôt intérêt qu'on se serve de leurs produits tous les jours pour en racheter beaucoup plus souvent que de se servir que deux fois par semaine.
Ok, merci beaucoup Cyril.
Avec plaisir.
Voilà, vous savez l'essentiel sur l'usage des conservateurs en cosmétique. En gros, les plus connus sont les parabènes, parce qu'on sait les utiliser depuis longtemps. Et qu'à très faible dose, ils sont déjà très très efficaces. Mais à forte dose, ils sont soupçonnés d'avoir un effet perturbateur endocrinien. C'est pas dérangeant pour les adultes, mais ça peut l'être pour les femmes enceintes et les bébés. C'est pourquoi le maximum autorisé est très très bas, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter concernant cette famille d'ingrédients, sauf si vous êtes une femme enceinte, encore une fois. Et encore, c'est si vous voulez appliquer le principe de précaution. De façon générale, si on n'a pas de réaction allergique, il n'y a pas vraiment de raison d'éviter plus un conservateur qu'un autre. Mais beaucoup de fabricants ont quand même décidé d'utiliser d'autres types de conservateurs que les parabènes, comme par exemple le phénoxyéthanol, limité à 1% maximum dans les formules. De façon générale, si on n'a pas de réaction allergique, il n'y a pas vraiment de raison d'éviter plus un conservateur qu'un autre. On peut aussi optimiser le système de conservation des produits en les conditionnant différemment, comme par exemple avec des flacons dits « airless » qui ne laissent pas rentrer l'air. C'est particulièrement intéressant pour des produits sensibles, comme un sérum au rétinol par exemple, puisque comme son nom l'indique, le conservateur il est là pour conserver les produits. Et un produit mal conservé, c'est un produit qui est beaucoup plus dangereux qu'un produit qui contient des conservateurs bien dosés. Encore merci à Cyril Laurent pour son expertise et on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un nouveau sujet controversé en beauté, les injections en médecine esthétique. Si vous appréciez ce podcast, pensez à en parler autour de vous, à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et à nous laisser plein de commentaires. À la semaine prochaine, d'ici là, crémez-vous bien et prenez soin de vous.